Et j'ai choisi comme thème libre Actes chapitre 15. C'est le chapitre qui traite du concile à Jérusalem, où ce que les anciens Paul, Barnabas, Jacques, Barnabé, il n'y a pas Barnabé, Barnabas, que j'ai mentionné, Pierre, qui sont rassemblés pour traiter de questions qui semblent difficiles. Et avant de commencer, on va prier. Oui, Seigneur Dieu, on veut te demander de nous diriger dans ta parole. Ouvre nos cœurs, que ça puisse transformer des vies, que ça puisse nous éclairer, nous édifier, nous donner une joie aussi de pouvoir t'appartenir, Seigneur. Amen. Et on va étudier à partir du verset 13 à 21. Par contre, on va lire pour le besoin du contexte à partir du verset 1. Quelques hommes venus de la Judée enseignaient les frères et disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. » Après un vif débat et une violente discussion que Paul et Barnabas eurent avec eux, on décida que Paul et Barnabas et quelques autres des leurs montrèrent Jérusalem vers les apôtres et les anciens à propos de cette question. Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie en racontant en détail la conversion des païens et en causant une grande joie à tous les frères. Arrivés à Jérusalem, ils furent reçus par l'Église, les apôtres et les anciens, et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors quelques-uns du parti des pharisiens qui y avaient cru se levèrent et dirent qu'il fallait circoncire les païens et leur commander d'observer la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunirent pour examiner cette affaire. Après une vive discussion, Pierre se leva et leur dit, « Frères, vous le savez, dès les tout premiers jours, Dieu a fait un choix parmi vous afin que, par ma bouche, les païens entendent la parole de l'Évangile et qu'ils croient. Et Dieu, qui connaît les cœurs, leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il a purifié leur cœur par la foi. » Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu et mettez-vous sur le cou des disciples un joug que nos pères et nous-mêmes, nous n'avons pas été capables de porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés de la même manière qu'eux. Toutes les multitudes gardaient silence et l'on écouta Barnabas et Paul raconter tous les signes et les prodiges que Dieu avait faits par eux au milieu des païens. Et lorsqu'ils se turent, Jacques prit la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple consacré ou qui porte son nom. Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, comme il est écrit. Après cela, je reviendrai et je relèverai la tente de David qui est tombée. J'en relèverai les ruines et les redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur, afin que toutes les nations sur lesquels mon nom a été invoqué, dit le Seigneur qui fait ces choses connues de toute éternité. Et c'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils s'abstiennent des souillures des idoles, de l'inconduite, des animaux étouffés et du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. » Deux choses aujourd'hui. Premièrement, on va regarder le discours de Jacques. Et ensuite de ça, on va regarder les recommandations qui est fait à l'Église en général. Et peut-être donner un contexte un peu personnel pourquoi j'ai choisi ce passage. C'est parce que, entre autres, j'étudie beaucoup la question de l'idolâtrie. Et ce texte concerne l'idolâtrie. En fait, c'est une question qui me fascine et me passionne parce que la question de départ est-ce qu'on doit circoncire les juifs, les non-juifs? Finalement, doit-on passer par le judaïsme pour être chrétien? Puis qu'est-ce qu'on fait avec eux? Et la réponse qui sort de là, c'est des recommandations qui concernent l'idolâtrie. Et il y a un processus entre les deux qui s'est opéré, qui fait que finalement les sujets ne semblent pas s'accorder ensemble, puis qui fait que finalement ils s'accordent ensemble. Et aussi, peut-être un contexte d'Église. On étudie Romains chapitre 7 présentement. La question, c'est la question de la loi. Et beaucoup, la question du légalisme, il me semble, en tout cas, je me suis promené dans plusieurs églises dernièrement, puis il me semble que la question du légalisme revient souvent, sans entrer dans tous les détails de ça, mais juste en exposant le texte, parce que dans le fond, le texte traite de cette question et traite de l'idolâtrie en même temps. Et c'est peut-être bien de se rappeler, dans le fond, le contenu de ce concile qui va nous donner, en quelque sorte, notre identité en tant que membre d'Église, mais aussi en tant qu'assemblée. Parce que c'est les questions qui sont traitées ici. Le contexte. Et c'est le mot d'ordre de cette prédication, contexte. Vous allez comprendre pourquoi. On est à peu près à l'an 49 après Jésus-Christ. Jésus, ça fait déjà une quinzaine d'années qu'il est mort, qu'il est ressuscité. Paul, juste un petit peu avant, dans les chapitres qui précèdent, c'est son premier voyage missionnaire. Il prêche la parole, la bonne nouvelle de Jésus. Et il y a des personnes qui suivent Paul dans les villes après que Paul ait quitté pour imposer la circoncision puis la loi de Moïse. Et quand on étudie le chapitre 15 du livre des Actes, il faut aussi étudier Galates chapitre 2. Parce que Galates chapitre 2 a été écrit juste un petit peu avant, pratiquement la même année que Actes 15. Et il traite, dans le fond, de la même question. Et on voit dans Galates 2, 4, l'expression de ce problème. Galates 2, 4 nous dit « Cependant, à cause des faux frères qui s'étaient furtivement introduits et glissés parmi nous pour épier la liberté que nous avons en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir. » Ils suivent Paul, ils veulent, dans le fond, asservir le peuple en imposant une loi. Et ça fait suite et ça fait référence aussi, ce chapitre, à Actes chapitre 11, parce que ça concerne des événements qui se sont produits à Antioche. Antioche était la troisième ville la plus importante de l'Empire romain et la plus importante pour les Juifs, souvent, après Jérusalem. Et c'est dans cette ville qu'on voit, à Actes 11, 26, qu'il y a un événement assez spécial qui s'est produit, c'est que pour la première fois, on est appelé chrétien. Et deux facteurs historiques peut-être à considérer dans l'étude de ce chapitre. Premièrement, c'est qu'à cause justement du ministère de Paul, l'Évangile se répandait, mais se répandait assez rapidement. Et on voit que les événements du chapitre 11 avec Antioche, les chicanes qu'il y avait, impliquent certaines personnes, dont Pierre, Paul et Barnabas. Et Galates chapitre 2, c'est Paul qui reprend Pierre pour une erreur, dans le fond, qu'il faisait. Et ça forçait l'Église à s'interroger sur qu'est-ce que l'Église, qui en fait partie, puis comment qu'on rentre dedans. Comment qu'on peut devenir membre ou devenir faisant partie du peuple de Dieu. Deuxième facteur d'importance, c'est que la même année, l'empereur romain Claude, a expulsé d'Antioche les chrétiens, les judéo-chrétiens et les juifs pour une chicane qu'il y avait sur la personne de Jésus. Et donc, l'année 49 était une année remplie de tumultes et de questionnements, surtout face à l'Église. Et donc, les questions y viennent. Comment les croyants devaient-ils vivre dans la foi en étant juifs? En étant non-juif, est-ce qu'on fait des communautés séparées? Comment permettre aux prophéties de se réaliser dans le fait que Dieu restaurerait son peuple? Et au cœur du débat, Pierre, Jacques et Paul, et il semble que ce soit Jacques qui met fin au débat. Jacques qui était une autorité dans l'Église de Jérusalem à cette époque. Une flèche se promener. Sinon. Et donc, Jacques joue ce rôle de médiateur entre les églises à l'extérieur de Jérusalem et aussi à Jérusalem pour régler ce conflit. Est-ce qu'on doit assujettir les non-juifs à la loi de Moïse. Et remarquez l'argument au verset 1 que ces personnes disaient. Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez être sauvés. En fait, il démontre l'évidence. L'évidence qu'on est sauvé par la foi, mais en réalité, ils ont fait un concile. Mais la réponse était déjà claire, parce que trois versets plus loin, à peu près, au verset 3, « Eux donc, accompagnés par l'Église, traversèrent la Phénicie et la Samarie en se rendant à Jérusalem, en racontant les conversions des païens et causant une grande joie à tous les frères. » Puis après ça, ils parlent qu'ils ont été sauvés par la foi. Fait que le débat, il est déjà clos. C'est juste que ça prend le sceau apostolique pour qu'après ça, on puisse aller dans les églises. Et ils vont écrire une lettre avec les recommandations qui va partir dans toutes les églises, surtout de la Galatie. Donc, c'est une démonstration de l'évidence qu'on est sauvé par la foi. 15, 14. Frères, bien, Jacques, au verset 13, commence, « Lorsqu'ils se turent, toute l'assemblée, et il n'y a pas juste les anciens et les apôtres qui sont rassemblés, mais c'est toute l'Église, toute l'assemblée qui est présente. Et Jacques se lève, prend la parole et dit, « Frères, écoutez-moi. » Simon a raconté comment, pour la première fois, Dieu est intervenu pour prendre un peuple parmi les nations qui porterait son nom. Et quand que je prends ce verset-là, je ne peux pas m'empêcher de penser aux témoins de Jéhovah, nos amis témoins de Jéhovah. Et pour compléter en quelque sorte le contexte, j'aimerais répondre à un des arguments qu'ils m'ont déjà apporté, qu'on voit dans leur littérature, c'est-à-dire que c'est le seul peuple qui porte le nom de Dieu. Et par conséquent, ils sont le peuple de Dieu parce qu'ils portent le nom de Jéhovah. Et c'est un des arguments. Vous comprenez l'argumentation? Et je vais essayer de répondre à leur argument à partir du contexte. Et je vais tirer quatre points pour terminer le contexte et voir le débat, il se situe où. Puis après ça, Jacques va conclure en citant l'Ancien Testament puis en démontrant par les Écritures que ce qu'il est en train de dire est appuyé par l'Écriture et que ce qu'ils sont témoins est vrai. Donc, les témoins de Jéhovah nous disent qu'ils sont les seuls à être le peuple de Dieu parce que c'est le seul peuple à porter son nom. Et c'est le texte qui amène, c'est ce passage-là. Premièrement, si on considère la suite logique des événements de 11, du chapitre 11 à 15, le pattern est déjà présent. Le pattern du chapitre 15 est déjà présent dans le chapitre 11. C'est-à-dire que les bénédictions des peuples païens qu'on voit, qui est question dans le chapitre 15, sont présents dans le chapitre 11. Et Pierre semble parler d'un certain événement qui se serait produit avec Corneille et d'autres personnes qui n'étaient pas juifs. Et il fait allusion à Actes chapitre 11 dans son argumentation. Et le chapitre 11, c'est le passage, comme je disais, qui est dit qu'on est appelé, comment? Chrétien. C'est la première fois qu'on est appelé chrétien. Et les arguments de Barnabas et Paul précèdent le discours de Jacques, qui, à son tour, va expliquer ce qui est en train de se produire. Deuxièmement, les témoins de Jéhovah revendiquent, dans leur sens d'être littéral, le nom de Dieu. Par contre, il accepte très bien l'idée que ce n'est pas le nom littéral de Dieu, parce que Dieu, c'est quatre lettres, YHWH, le tétragramme. Et Jéhovah, c'est des lettres qui ont été ajoutées parce qu'on ne savait pas comment ils prononçaient. Fait qu'on a écouté des rabbins comment ils prenaient ça, puis ils ont pris le terme Adonai, puis ils ont pris des voyelles pour les placer dedans. Et donc, il est inconséquent de se revendiquer littéral alors qu'eux-mêmes, ils ne l'appliquent pas de façon littérale. Et troisièmement, on peut se poser la question à savoir comment on rentre dans ce peuple qui est parlé dans Actes chapitre 15. Et c'est ça le débat en réalité. Est-ce qu'il faut passer par les Juifs pour devenir chrétien? Ou il faut passer par Dieu? Ou comment ça fonctionne? Et le contexte démontre très bien, on a lu les passages, surtout le verset 9, « Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, puisqu'il les a purifiés leur cœur par la foi. » Dans le discours, ce livre, puis Actes chapitre 11, il annonce la bonne nouvelle de Jésus-Christ, l'Évangile. C'est cet Évangile qu'il annonce. Donc, ce n'est pas par les œuvres de la loi, ce n'est pas par les œuvres qu'on pourrait faire pour mériter notre salut, mais c'est l'action de Dieu dans la vie des croyants qui vient prendre un peuple. Et ça, c'est le premier credo de foi chrétienne. Et c'est inconsistant avec la doctrine des témoins de Jéhovah. Et Jacques, en réalité, répond à ça. Quatrièmement, c'est un acte de Dieu attesté à maintes reprises dans tous les contextes, autant dans Actes 11 que Actes 15. Lisez les versets 21 à 25 de Actes 11. Et la question de savoir comment on rentre dans l'Église, c'est par la foi. La main du Seigneur était avec eux. Il y a un grand nombre de ceux-là crurent et se convertirent au Seigneur. Comment qu'on rentre dans l'Église? C'est Dieu qui attire des personnes. Il n'y a personne, ils ne font rien. Peut-être une petite synthèse de ces quatre points que j'ai résumés comme ceci. On pourrait dire que le salut s'acquiert par la foi indépendamment des œuvres, autant de la loi que de nos propres efforts. Ça ne dépend pas des peuples, des races ou encore de notre niveau d'intelligence, mais c'est l'action de Dieu dans la vie d'un croyant. Et les arguments des personnes qui sont présentes dans Actes 15 parlent d'événements dont ils sont témoins. Et les événements en question sont les mêmes événements dans tous les contextes ici. Et le peuple de Dieu trouve donc son équivalent dans la Bible, dans le fait d'être chrétien. Et on le devient par grâce, au moyen de la foi, sans les œuvres, par la souveraineté de Dieu qui travaille par son esprit. Et Actes chapitre 15 démontre cela. Le Crubon est amené ses arguments parce que c'est en même temps qu'on peut réfuter, puis on ne veut pas les dénigrer, on veut les aimer, puis on veut les amener l'Évangile, parce que c'est ça que nous avions de besoin, et c'est ça qu'ils ont de besoin. Et l'erreur de sortir du contexte de Actes 15 pour prendre seulement un verset peut nous amener à dire à peu près n'importe quoi dans ce sens-là. Et donc, j'ai voulu compléter le contexte pour montrer que, dans le fond, que la question de Actes 15, c'est la question du salut. Maintenant, place à la réponse de Jacques. Jacques utilise dans son argumentation une citation tirée de l'Ancien Testament, c'est-à-dire Amos chapitre 9. Et on va se poser trois questions en regardant ces passages. Première question, c'est qu'est-ce que Jacques veut démontrer en citant l'Ancien Testament? Deuxième question qu'on va regarder, c'est que signifie cette prophétie dans son contexte de l'Ancien Testament? Et troisièmement, conséquence, comment cette parole prophétique supporte ce que Jacques veut démontrer? Et les paroles des prophètes s'accordent avec cela, verset 15. Jacques veut montrer que ce qu'ils viennent de dire s'accorde avec les prophéties, avec les prophètes. Et qu'est-ce qu'il a démontré? Cela. Et cela se rapporte au verset précédent. Frères, écoutez-moi, Simon a raconté comment pour la première fois Dieu est intervenu pour prendre parmi les nations un peuple qui porterait son nom. Jacques veut soutenir le fait que Dieu a agi par Pierre pour aller vers les nations. Dieu lui-même a visité les païens par sa propre initiative et a tiré un peuple qui porterait son nom. Et il y a des pharisiens qui sont présents ici. Et dans ce contexte, on peut facilement imaginer le pharisien qui pose la question aux apôtres. « Oui, c'est beau là, que vous aviez vu des expériences, mais est-ce que l'Écriture appuie ce que vous dites? » Et Jacques de répondre, « Certainement. Certainement qu'il y a des textes. Les prophètes, faisant référence probablement aux 12 petits prophètes dans l'Ancien Testament. Et là, il cite Amos, chapitre 9. Et probablement le verset 18, Isaïe 45. Et donc, il démontre, et il veut démontrer que Dieu s'est acquis un peuple à partir du ministère de Pierre. Deuxièmement, que signifie cette prophétie dans son contexte de l'Ancien Testament? On va lire Amos chapitre 9. Ézéchiel, Daniel, Osée, Joël, Amos. On va lire Amos chapitre 9 et on lit versets 11 et 12, se trouve à être la citation que Jacques fait. Le verset 11 commence comme ceci, « En ce jour-là ». Première question, de quel jour est-ce qu'il parle? Il faut lire le verset 8. Et on va lire le verset 8 avant de lire la citation, parce qu'on veut comprendre qu'est-ce que Amos dit. « Voici que le Seigneur l'Éternel a les yeux sur le royaume coupable. Je le détruirai de la surface de la terre. Toutefois, je n'irai pas jusqu'à détruire totalement la maison de Jacob, oracle de l'Éternel. Car voici que je donnerai mes ordres. » Et je ferai secouer la maison d'Israël pour toutes les nations. Comme on est secoué par le crible sans qu'il en tombe à terre, une seule parcelle. Tous les pécheurs de mon peuple mourront par l'épée, eux qui disent, tu ne feras pas approcher le malheur et tu ne feras pas arriver jusqu'à nous. Et la citation, en ce jour-là, je relèverai la cabane ou tente chancelante de David. Je réparerai les brèches, je relèverai les ruines et je la rebâtirai comme elle était autrefois, afin qu'ils entrent en possession du reste des hommes et de toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué, oracle de l'Éternel qui accomplit tout cela. L'accent du passage est mis sur le fait qu'Israël va être détruit. Israël est détruit au verset 8, 9 et 10. Mais il fait la promesse qu'il va restaurer la tente de David, faisant probablement référence à 2 Samuel, où ce que Dieu avait fait cette promesse à David, qu'il va voir un royaume éternel. La colère de Dieu va se détourner de son peuple, qui va être détruit, puis il va restaurer ce peuple. Et ensuite, au verset 12, il reconstruit ce peuple pour posséder Édom, une ville qui était hostile à Israël. Mais regardez la deuxième section du verset 12. « Du reste d'Édom et des nations, et des toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. » Les personnes appelées par le nom de Dieu est le peuple de Dieu. En ce jour-là, faisant allusion à quelque chose qui va arriver dans la suite des choses, on attend quelque chose. Et Jacques modifie sa citation en parlant de « après cela, je reviendrai ». Il change un petit peu le temps de verbe pour dire que c'est accompli. Il y en a un qui est dans le futur, puis Jacques il dit « ben, ça, c'est accompli. » Et cette section ne parle plus de destruction, mais parle de conversion, de rassemblement. Et donc, la réponse à notre deuxième question, à savoir qu'est-ce que Amos veut dire dans son contexte, c'est qu'il va venir un jour où Dieu va être en faveur de son peuple. Il va le reconstruire et le restaurer. Il va les rassembler, puis il va porter son nom. Maintenant, qu'est-ce que Jacques veut faire avec ce passage? Après cela, je reviendrai, je relèverai la tente de David qui est tombée, je relèverai les ruines et je la redresserai afin que le reste des hommes cherchent le Seigneur ainsi que toutes les nations sur lesquelles mon nom a été invoqué. Le verset 14 parle de Pierre, qu'il a commencé son ministère par Pierre. L'acte des apôtres, c'est ça. Jésus a pris 12 personnes, 12 apôtres. Ensuite de ça, 5000 conversions à Jérusalem. Et maintenant, une porte est ouverte pour les païens avec Corneille, les événements dans Actes chapitre 11 à Antioche. Puis là, on voit que Dieu a choisi par Israël. Et ensuite de ça, le verset 16, c'est ce qui confirme. Après cela, je reviendrai, je relèverai premièrement la tente de David. Ça va passer par Israël. Mais Israël va déboucher, verset 17, sur toutes les nations. Autre texte qui parle de ce sujet, puis juste le mentionner sans qu'on regarde, mais il est quand même assez clair, Éphésiens 2, 19 et 20 est un autre texte qui parle de cela. Ainsi donc, vous n'êtes plus des étrangers ni des gens de passage, mais vous êtes concitoyens des saints, membres de la famille de Dieu, vous qui avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre de l'angle. Et cette citation soutient le point que Dieu va reconstruire son peuple, qu'il va aller chercher son peuple, après avoir restauré Israël parmi les nations. Le verset 18, Jacques cite probablement Isaïe 45 pour venir appuyer le passage d'avant qui nous dit que « dit le Seigneur qui fait ces choses connues de toute éternité ». Et donc, ce n'est pas quelque chose de nouveau pour Dieu, ce n'est pas une annonce nouvelle d'aller chercher un peuple tiré des nations. C'est quelque chose qui est déterminé dans le plan éternel de Dieu. Et Amos pointe sur une chose, ceux qui invoqueront mon nom. Le point, c'est qu'on ne passera plus par le judaïsme, mais par l'invocation du nom de Dieu. Et c'est donc un appui par l'Écriture que Jacques fait. Ce texte révèle et relate le but de Dieu pour les non-juifs. Ça nous parle de qui qu'on est. On était un peuple qui était hostile à Dieu. C'est vrai encore aujourd'hui. Si on sort dehors, là, on veut pas connaître Dieu. On ne veut pas. Et c'est Dieu qui prend l'initiative d'aller chercher ce peuple. Et Jacques choisit ce texte au moins pour une raison, c'est qu'il donne une perspective historique du salut. C'est, il va arriver des choses, maintenant c'est arrivé. Quelques applications pour ce premier passage, cette première section, c'est qu'on est racheté pour Dieu. On tire notre unité de notre diversité en tant qu'individu dans l'Église. Il n'y a pas de juifs ou de non-juifs, puis de comment qu'on fait l'Église, on fait-tu l'Église différemment? C'est un peuple autour de Jésus-Christ. C'est là qu'on tire notre unité. On était hostile à Dieu, et lui est venu nous chercher. Deuxièmement, le verset 17 nous parle de notre but. Autant qu'il nous parle de notre identité de personne qui était éloignée, séparée de Dieu, que Dieu est venu chercher, autant il nous dit à quoi qu'on sert. Le verset 17 commence par « afin que le reste des hommes cherche le Seigneur ». Notre existence en tant qu'Église et en tant la personne faisant partie de cette Église, c'est qu'autour de nous, ils cherchent, ils trouvent Dieu. Comment? Par l'Évangile. Et là, je ne suis pas en train de dire que c'est juste entre les quatre murs, puis qu'il faut... Non, il faut sortir. La vie chrétienne, puis on va le voir dans les recommandations, ce n'est pas entre les quatre murs ici, c'est à l'extérieur. Le but du passage, c'est qu'on aille vers l'extérieur pour que les personnes puissent connaître Dieu. Regardons les recommandations qui sortent de là. Comme je mentionnais au début, la question, c'est de savoir qui est sauvé, est-ce qu'il faut passer par la loi de Moïse? Puis les exhortations qui sont faites, c'est de fuir l'idolâtrie. Versets 19 à 21. C'est pourquoi je juge bon de ne pas créer de difficultés à ceux des païens qui se convertissent à Dieu, mais de leur écrire qu'ils, premièrement, s'abstiennent des souillures des idoles, deuxièmement, de l'inconduite, troisièmement, des animaux étouffés, et quatrièmement, du sang. Car depuis les anciennes générations, Moïse a dans chaque ville des gens qui le prêchent. C'est un appel pour nous aussi, là, on le voit, là, à sortir l'Évangile, puisqu'on le lit chaque sabbat dans les synagogues. Quel est le lien entre le discours de Jacques et les exhortations? Doit-on passer par le judaïsme pour être sauvé? La réponse est non. Les recommandations qui sortent de là, c'est de ne pas créer de difficultés pour les païens qui se convertissent parce qu'on est sauvé par la foi. Maintenant, les quatre recommandations sont dans trois passages. Au verset 20, de 22 à 30 quelque chose, 33 je pense, et verset 29, ils sont réitérés, et dans un autre contexte, en acte 21, verset 25. Et c'est les quatre éléments, les quatre mêmes éléments qui sont mentionnés. C'est une lettre qui est écrite pour aller un petit peu partout dans les églises pour donner le verdict du concile qu'il y a eu à Jérusalem. Et quelle importance accorde-t-il à ces éléments, c'est-à-dire des souillures, et des idoles, l'inconduite, les animaux étouffés et du sang? Jacques, est-ce qu'il exige qu'on ait une alimentation qu'on pourrait qualifier de cachère? Mais beaucoup de théologiens interprètent ce texte de deux façons. La première, c'est qu'ils vont dire que Jacques exige des païens qu'ils observent les lois diététiques du Lévitique. Entre autres, Lévitique 17, 10, pour que je tourne, je vous le lis. Tout homme de la maison d'Israël ou tout étranger résident parmi vous qui mangera du sang, n'importe quel sang, je me tournerai contre celui-là qui aura mangé ce sang et je le retrancherai du milieu de ce peuple. Est-ce qu'il parle de Lévitique chapitre 17? Ou encore, et un grand nombre de commentateurs utilisent souvent Genèse chapitre 9, les recommandations qui est dit à Noé. Seulement, vous ne mangerez pas la chair avec son âme, c'est-à-dire le sang. Ces deux passages ne parlent aucunement d'idolâtrie. Ce passage parle de viande sacrifiée aux idoles. Les deux passages ne parlent pas d'immoralité, ce qui est mentionné dans les quatre recommandations. Et donc, on pourrait émettre l'hypothèse qu'en fait, il y a deux recommandations. Une en ce qui concerne l'idolâtrie, parce qu'il y a trois recommandations concernant ça. L'abstinence des pollutions des idoles, des animaux étouffés et du sang. Et on sait qu'on retrouve ça dans les temples païens. Et une deuxième recommandation, c'est-à-dire contre l'immoralité sexuelle. C'est-à-dire, le terme qui est utilisé, c'est inconduite, qui se trouve être le terme porneia, d'où on tire pornographie. Mais ça semble improbable, parce que premièrement, Jacques ne semble pas dissocier les recommandations. Parce que dans le verset 20, l'inconduite est mentionnée en deuxième. Verset 29, il est mentionné en quatrième. sont interchangeables. Ils ne semblent pas dissocier les recommandations. Et donc, si on trouvait une explication un petit peu plus plausible, et à mon avis, la meilleure explication est celle de Ben Witherington, que j'ai toujours eu de la difficulté à dire, qui va comme ceci. Supposons que le décret ait été appliqué autant à l'égard du lieu de rendez-vous que de la nourriture et de l'immoralité sexuelle. Alors, nous pouvons nous poser les questions suivantes. Premièrement, quel est le lieu fréquenté régulièrement par les non-juifs où ces quatre éléments pouvaient constituer une source de tentation? Deuxièmement, quelles étaient les consignes de base les plus importantes que Dieu demandait au peuple de respecter? Si on considère l'Ancien Testament et on se pose la question, c'est quoi que Dieu nous demande de respecter en premier? On a juste à prendre les 10 commandements. Les deux premiers commandements concernent l'idolâtrie, de fuir l'idolâtrie. Et c'est probablement ce que Jacques veut souligner en disant, dans le fond, éloignez-vous des temples païens, où ce qu'on pratique et on voit ces choses-là. Où ce qu'on rend culte à des idoles. Et pour appuyer ça, il continue en disant, la preuve que Jacques donne, cet argument, réside en partie dans le terme « idolutouton », terme technique signifiant « viande sacrifiée et consommée en présence d'une idole ». Cela ne parle pas de viande que l'on trouve à la boucherie. Il y a 112 occurrences de ce mot. Invariablement, ce sont des textes chrétiens et deux textes influencés par des textes chrétiens. Et ce terme est toujours utilisé en relation avec le culte rendu à une idole. Il réfère littéralement à la souillure ou aux offrandes rendues par les idoles. Et Actes 15-20, Jacques parle très clairement d'aliments souillés par les idoles. Le terme porneia provient du terme porné, qui signifie prostitution. Les temples païens était réputé pour qu'on trouve la prostitution. En fait, les temples païens, si on veut extensionner et prendre les applications, ressemblent étrangement à des clubs modernes. Modernes, oui. Est-ce que ça l'a changé de mentalité? Non. Ce que Jacques est en train de dire, fuyez les temples. Pour les gentils, c'est-à-dire les non-juifs, se retirer d'un temple, ce n'était pas juste de changer d'église ou encore de changer de culte, mais c'est tout un réseau social. Parce que dans les temples, c'est là qu'on faisait souvent des transactions ou qu'on rencontrait, qu'on avait des relations sociales, qu'on voyait des personnes. Est-ce que c'est différent aujourd'hui? Vous avez sûrement entendu à la radio que au club de danseuses, ils rassemblent les propriétaires de compagnies pour aller faire le meeting. Je montais le matin au travail, puis au radio, ils annonçaient qu'il y avait des spéciaux au club de danseuses pour ceux qui venaient avec leur compagnie. À Ottawa, il y a un des plus grands clubs de danseuses. J'avais lu un article d'un journal qui posait la question à savoir qu'est-ce qui caractérise nos politiciens. Il y a quelqu'un qui osait dire qu'en avant du Parlement, il y a un des clubs de danseuses nues les plus réputés au Canada. Je ne dis pas qu'ils vont tous là. Quelques applications. Jacques n'impose pas de règles alimentaires, mais il nous exhorte à faire une coupure avec comment qu'on vivait en tant que païen. Particulièrement en ce qui concerne les cultes païens. Évidemment, on a nos lieux de culte. Et je veux faire attention ici, parce que je ne veux pas, ça serait facile pour moi d'arriver et de dire, vous, là, toute cette section-là, les jeunes, là, n'allez pas dans les clubs. Ça serait facile. Mais l'idolâtrie va plus loin que juste une statue ou un lieu physique dans lequel on se rassemble. Je pense à 1 Jean. 1 Jean, c'est probablement un de mes textes préférés en ce qui concerne l'idolâtrie. 1 Jean 1,4 nous dit « Je vous écris ces choses afin que ma joie soit complète. » De quelle chose est-ce qu'il parle? Ben, des versets 1 à 4, parce que lui, c'est le verset 5. Fait qu'il parle qui ont vu, qui ont touché Jésus, qui ont vu sa gloire. Il parle de Jésus. Et 1 Jean termine, dernier verset, « Mes petits enfants, fuyez l'idolâtrie. » Et le verset qu'il précède, c'est un des versets les plus clairs en ce qui dit que Jésus est Dieu et qu'il faut l'adorer. Et donc, l'idolâtrie va plus loin que ça, dans le sens que il faut que tout ce qui peut m'éloigner de Jésus, il faut que je fuie ça. Et s'il faut que je mette une coupure dans mes relations sociales, coupons. Jésus-même disait ça, « Si vous aimez votre père et ma mère plus que moi, votre famille, vous ne pouvez pas être mes disciples. » Et encore, il nous exhorte à calculer la dépense, le coût de suivre Jésus. Mais le coût en vaut la peine. Et une des conséquences de l'idolâtrie, et Jean qui va plus loin que simplement le lieu physique ou les statues, nous dit que c'est la perte de joie. J'aime pas faire ça, mais je vais raconter une petite histoire personnelle, mais sans rentrer dans tous les détails. Mais souvent, des chrétiens m'ont posé la question, même je rencontre quelqu'un qui est une pentecôtiste, qui me posait la question à savoir, comment tu fais, parce que je fais du judo. Ça va faire 24 ans cette année que je fais du judo. Et on sait que ça provient d'un milieu bouddhiste, qu'il y a toute une philosophie autour de ça, puis que comment tu fais en tant que chrétien pour arriver avec ça? Si on le pratique en tant que sport, j'ai pas de problème. Je fais mon sport, je fais la compétition, j'arrête. La journée que tu me demandes de vivre comme une religion, je vous le dis, je change de club. Ça m'a coûté 2 clubs de judo pour conserver mon témoignage dans les 3 dernières années. Le premier club... Je parlais de la création avec un de mes amis qui était là, qui était un ingénieur en chimie. Ça allait bien, ça choquait un petit peu des personnes, mais c'était pas si pire. La journée où j'ai parlé de Jésus, par exemple, comme preuve de l'existence de Dieu, à partir de ce moment-là, mes relations commençaient à se dégrader. Et il a fallu à un moment donné que je quitte. Il a fallu que je quitte. J'étais-tu triste? Oui. Mais ma joie était beaucoup plus grande de conserver mon témoignage que de le perdre. Deuxième événement, c'est arrivé il y a quelques mois. J'ai voulu être honnête dans ma façon de procéder. J'ai remonté un club de judo, mais il y en a qui n'aimaient pas ça. On m'a mis dehors pour prendre tous mes élèves, en espérant prendre tout l'argent. Évidemment, on met ça au noir, ce que je ne voulais pas faire. J'ai conservé mon témoignage. Et je peux penser à ce proverbe 16:7 qui dit « Quand l'Éternel est favorable aux voies d'un homme, il dispose même ses ennemis à la paix avec lui. » Mais il s'est servi de cette situation-là pour mettre en évidence peut-être « Oui, j'ai perdu quelque chose, mais en réalité, j'ai une grande joie dans cette situation-là, d'un autre côté, parce que je sais pour qui, lequel nom que je porte. Je sais la joie d'où ce qu'elle provient. Puis lui, il vient de se planter. Il a fermé son cours. On est créé pour trouver notre plaisir en Dieu. Et l'exhortation nous dit que si tu ne trouves pas ton plaisir en Dieu, tu es idolâtre. Qu'est-ce qui nous enlève la joie? Nous sommes des créatures créées pour prendre plaisir en Dieu. Philippiens 4:4. Réjouissez-vous dans le Seigneur. Quand on se tourne vers des idoles, qu'est-ce que ça fait? Inévitablement, on va avoir cette perte de joie. Romains 18 et 21 nous dit qu'ils n'ont pas considéré Dieu, qu'ils se sont fait des idoles et leur cœur a été plongé dans les ténèbres. La majorité ici d'entre vous, la totalité, être chrétien. Deuxième application, est-ce que ce principe est vrai pour un chrétien? Romains 8, 6 nous dit, « Avoir les tendances de la chair, c'est la mort. Avoir les tendances de l'esprit, c'est la vie et la paix. » Qu'est-ce qui enlève votre joie? La joie provient du fait qu'on est libéré en Jésus-Christ. Et suivait Paul pour les asservir. Galates 2, 4, il nous disait que les faux frères voulaient vous imposer des choses afin, dans le fond, de vous gagner pour épier la liberté que nous avions en Christ Jésus avec l'intention de nous asservir. La question se pose donc, est-ce qu'on est soumis encore à la loi? Pas la loi de Moïse, la loi de Jésus-Christ, qui a réduit à au moins deux commandements. Et le deuxième découle du premier. Un, aime le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de ton âme et de toute ta force. Deuxième, fais la même chose avec ton entourage, qui découle de ta relation avec le Seigneur. Et le témoignage n'est pas nécessairement le fait que je vais prêcher l'Évangile, je monte sur un podium puis je prêche l'Évangile sur le coin de la rue, mais ça provient par des vies transformées qui trouvent sa joie en Dieu, qui fait qu'on va être une lumière autour. Et quand tu rentres à l'épicerie et quelqu'un te demande « Ah, tu as de l'air content aujourd'hui? » Oui, parce que je porte le nom de Dieu. Et dans le livre des Actes, c'est en étant chrétien. Qui es-tu? Notre vraie identité, c'est qu'on était séparés de Dieu, mais qui est venu nous chercher. Les recommandations, ainsi que cet appui biblique que Jacques fait, démontrent l'importance des recommandations qui nous poussent à fixer les regards vers Jésus. On va prier. Oui, Seigneur Dieu, d'un bout à l'autre dans la parole, tu nous amènes à fixer les regards vers toi. On doit confesser aujourd'hui qu'effectivement, c'était peut-être un petit peu historique, théologique, et que les applications, par contre, découlent de cette théologie. On n'a pas regardé Galates en profondeur, mais c'est Pierre qui reprend Paul. C'est Paul qui reprend Pierre pour une erreur théologique. Et cette erreur dans sa théologie s'est reflétée dans son comportement. Et Paul reprend Pierre. Et Jacques, ici dans Actes 15, expose une bonne théologie. Pourquoi? Parce que ça débouche sur une vie digne de porter ton nom, Seigneur. Par liberté. Parce qu'on t'aime. Tu es venu nous chercher, tu nous as éclairés, et on voit que tu es beau, que tu es merveilleux, mais nos cœurs se tournent trop facilement vers des idoles qu'on se forge nous-mêmes. On veut te demander pardon, Seigneur. Tu es tellement merveilleux, tellement grand. Enseigne-nous, Seigneur, à avoir un témoignage autour de nous, à avoir une joie qui provient de la paix, de la vie que tu nous donnes, Seigneur. Une joie de porter ton nom. Une joie d'être chrétien, Seigneur. Dans nos familles. Au travail. Aide-nous, s'il faut qu'on coupe, qu'on conserve ce nom-là, pur, Saint, qu'on coupe, Seigneur. Amen.